Avant de lire la parole, je vous invite à la prière. Seigneur Jésus, nous voulons te demander encore ce matin, de, par ta grâce, d'ouvrir nos cœurs et d'ouvrir nos oreilles pour qu'elles soient des oreilles de disciples, pour que nous puissions entendre, comprendre, consentir et obéir à ce que tu veux nous dire. Et Saint-Esprit, nous t'invoquons pour que tu révèles à nos cœurs la parole du Seigneur et que nous puissions vraiment la recevoir. Au nom de Jésus. Amen. Je vais lire avec vous le texte dans l'Évangile de Luc au chapitre 9, les versets 28 à 36, un texte qui est l'Évangile du jour. Et tout à l'heure, Pierre nous parlait du temps de carême. C'est un texte magnifique qui, justement, est lu par beaucoup de chrétiens aujourd'hui. C'est le texte de la transfiguration de Jésus. Dans l'Évangile de Luc, donc. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici deux hommes s'entretenaient avec lui, c'était Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit « Maître, il est bon que nous soyons ici, dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Il ne savait ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir. Et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui lui dit « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence et ne racontèrent en personne en ce temps-là rien de ce qu'ils avaient vu. Frères et sœurs, ce récit, pour dans tous les commentaires bibliques, dans tous les commentaires chrétiens, le nom qui revient, on appelle ça une théophanie. Vous savez ce que c'est qu'une théophanie, si on traduit ça en français courant? Une théophanie, c'est un moment particulier où Dieu se fait voir, où Dieu révèle qui il est. Et c'est ici, ce récit-là, pour tous les chrétiens de tous les temps, c'est le récit d'une théophanie, d'une révélation de qui est Jésus. Il y a un autre mot qui paraît important, qui est aussi traduit par révélation, c'est Apocalypse. La révélation de Jésus-Christ. Il y a là, j'oserais dire, il y a comme une apocalypse, comme une révélation profonde de qui est Jésus. Et j'aimerais qu'on puisse rentrer dans ce texte de cette manière-là. Accepter ensemble, consentir ensemble à recevoir encore aujourd'hui, par l'Esprit Saint, une profonde révélation de qui est Jésus. Comme Pierre, Jacques et Jean l'ont reçu ce jour-là. Et dans un premier temps, réfléchir ensemble, méditer ensemble sur ce que ce récit nous révèle de Jésus. Et dans un second temps, à quoi nous appelle cette révélation? À quoi consentir au travers de cette révélation? Parce que l'Écriture doit nous déranger, elle doit nous interpeller, elle doit nous bousculer, parce qu'elle est vivante. Elle doit nous faire faire un chemin, parce qu'elle nous révèle qui est Jésus. Alors, dans un premier temps, j'aimerais partager avec vous ce que signifie ce texte-là, cette théophanie, cette révélation de Jésus qui est faite à Pierre, Jacques et Jean, et que Luc a mis par écrit en recevant leur témoignage. Tout d'abord, il faut peut-être situer ce texte dans son contexte, dans l'Évangile de Luc. Ce qui est intéressant de voir, c'est que nous sommes au chapitre 9. Toute petite étude biblique, toute petite. Chapitre 9 commence par la mission des 12 apôtres. C'est le temps où Jésus a déjà choisi les 12. Il leur dit, il les rassemble, il leur donne tout pouvoir sur les démons, sur les démons et leur puissance, pour recevoir la puissance de guérir les maladies et de prêcher le royaume. C'est le moment où il envoie les 12 en mission. Et juste avant, donc, ce récit de la transfiguration, qui est placé au moment où 12 apôtres ont été choisis pour être envoyés en mission et témoigner du royaume de Dieu et de sa réalité. Voilà ce que Jésus dit juste avant le récit de la Transfiguration, au verset 27. Je vous dis tout cela en vérité, parce que quelques-uns de ceux qui sont ici, là il parle aux 12, ne mourront point avant qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. Autrement dit, ce récit de la Transfiguration, Jésus le place en disant, ceux qui vont venir avec moi sur la montagne vont voir le royaume de Dieu. Deux ou trois, Pierre, Jacques et Jean. Jésus avertit, ils verront le royaume de Dieu avant de mourir. Et suit alors le récit de la Transfiguration où Jésus les prend à part. C'est donc une révélation extrêmement importante. Et j'aimerais dire aussi que ce n'est pas une révélation quelconque, parce que pour Luc, elle prend place après une seconde révélation, une seconde théophanie. Vous qui connaissez la Bible, dans Luc, quelle est la première théophanie où Jésus est révélé dans ce qu'il est ? C'est son baptême. Et Luc, c'est tout à fait étonnant. Je ne sais pas si vous avez lu ce texte la semaine dernière. J'étais dans une église d'un pasteur de mes amis avec ma femme et Pierre-Élie à Nevers. Et c'est le texte qu'on a médité ensemble la semaine dernière. C'est le texte, justement, où après le baptême, Jésus est conduit au désert. Mais là, la théophanie du baptême, c'est aussi une théophanie. Vous savez ce qui se passe ? Jésus rentre dans les eaux. Une fois qu'il sort des eaux, qu'est-ce qui se passe ? Les cieux s'ouvrent. Une colombe descend sur lui. Et une voix se fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Cette première théophanie, dans Luc, elle est extrêmement importante parce qu'elle révèle quelque chose de Jésus. Et vous savez par quoi elle est encadrée ? Quel est le texte qui précède ce récit dans Jésus ? C'est une généalogie. J'y avais jamais prêté attention. L'évangile de Matthieu commence par une généalogie, et c'est une généalogie de Jésus qui commence à Abraham, qui s'arrête à Jésus en tant que, finalement, descendant d'Abraham. Donc, Matthieu prêche essentiellement à une communauté de juifs qui connaissent Jésus ou qui veulent connaître Jésus. Il leur dit, mais Jésus est le Messie, c'est le descendant d'Abraham qui est celui que Dieu envoie pour son peuple. Et là, Luc, la généalogie, il ne la met pas au début de son évangile. La généalogie de Jésus, il la met avant le baptême. Exactement entre le baptême, excusez-moi, entre le baptême de Jésus, sa théophanie, et la conduite au désert. Et devinez comment est construite sa généalogie. Elle commence par Adam. Parce que pour Luc, Jésus est le nouvel Adam qui vient nous racheter de la faute initiale. Il est le nouvel Adam qui vient racheter les Adams que nous sommes du péché originel. Et la première théophanie pour Luc, elle révèle Jésus, vrai homme, nouvel Adam, qui vient nous sauver du péché. Et c'est pour ça qu'il est conduit au désert et qu'il va vaincre Satan, déjà là, par les trois tentations à laquelle n'avaient pas su résister Adam et Ève. Donc pour Luc, la première révélation de Jésus, c'est Jésus, vrai homme. Fils de l'homme, vrai homme, nouvel Adam, qui vient sauver Adam et ses descendants. Et là, quel est le cœur de cette révélation ? Jésus va être révélé comme vrai Dieu, vrai homme et vrai Dieu. Il est de nature divine, il est du royaume. Parce que Jésus, qui n'a pas encore été glorifié sur la croix, qui n'est pas ressuscité, on le voit parler avec Moïse et Élie, revêtus de gloire. Jésus est vrai homme, mais il est aussi vrai Dieu, il est du royaume. Il est venu du royaume, il a abandonné son autorité de roi du royaume pour se faire homme, pour nous sauver. Et Luc est entre ces deux révélations, vrai homme et vrai Dieu. Et là, ce n'est pas une quelconque révélation qui est faite. C'est la révélation de Jésus qui, dans sa divinité, dans son origine divine, parle avec Moïse et Élie. Que représentent Moïse et Élie ? Moïse et Élie représentent la loi et les prophètes. Moïse, c'est la loi. Élie, c'est les prophètes. Jésus dans le royaume parle avec Moïse et Élie, qui sont eux aussi déjà dans le royaume. C'est interpellant, ça. Avant même la résurrection de Jésus, ils sont déjà dans le royaume, puisque Jésus parle avec eux. Dieu s'est déjà occupé de Moïse. Vous savez que Moïse n'a pas pu rentrer dans la terre promise. Là, il y est. La révélation se fait en Israël. Avec la venue de Jésus, Moïse est rentré en Israël. Et puis Élie, vous savez qu'il a été emmené dans un char de feu, lui aussi dans le royaume, et il est là. Et Pierre, Jacques et Jean voient ça. Ils voient dans la gloire, revêtue de gloire, Jésus qui parle d'égal à égal avec Moïse et Élie, et qui discute de ce qu'il va advenir. En fin de compte, vous savez très bien que Jésus, pour nous, est l'accomplissement de la loi et des prophètes. Il n'est pas leur anéantissement, comme dira Paul. Paul dit, non, il n'est pas l'anéantissement, il est l'accomplissement. Et vous savez que Jésus s'est toujours révélé, notamment aux disciples d'Emmaüs, avec la loi et les prophètes. Autrement dit, Jésus se révèle dans sa divinité comme l'accomplissement souverain de Dieu, de la loi et des prophètes, pour le monde. Ce n'est pas quelconque, parce que à qui écrit Luc ? Luc n'écrit pas à un public de juifs. Luc écrit à des non-juifs. Il écrit essentiellement pour les chrétiens de la diaspora, ceux qui sont en dehors de la communauté juive, ce que va surtout toucher Paul, en fin de compte. Vous savez que Luc a écrit l'évangile de Luc et les actes des apôtres, essentiellement pour un cher Théophile. Théophile, c'est un nom grec. Il a écrit pour des chrétiens ou des futurs chrétiens qui ne sont pas d'origine juive. Il replace ça dans son contexte profond. Mais cette révélation est profonde de qui est Jésus. Alors pourquoi tout cela ? En fin de compte, que nous révèle profondément cette béatitude, pardon, cette théophanie-là ? Ce qu'elle nous révèle, c'est que Jésus est en l'accomplissement de la loi et des prophètes de toute éternité. Il a été dans le royaume de Dieu, celui qui a désiré s'incarner parce qu'il est la parole faite chair. Il est le Verbe de Dieu qui s'incarne. Il est l'accomplissement de la loi et des prophètes. Il est l'accomplissement de toute parole de Dieu, parce qu'il est la parole de Dieu. Et Moïse et Élie n'ont pu parler que parce qu'ils étaient inspirés par cette communion avec la parole de Dieu. Vous savez qu'il est dit dans l'Épître aux Hébreux que Jésus était déjà présent au désert comme un rocher qui était présent pour le peuple. Jésus a toujours été présent en tant que Verbe de Dieu, en tant que parole de Dieu. Il planait sur les eaux. Il accompagnait Dieu dans sa sagesse. Il était sagesse et parole de Dieu. Et Luc nous montre, à ce moment-là, que vraiment Jésus est cette parole divine qui s'incarne, vrai homme, vrai Dieu, pour nous guider et pour accomplir toute la volonté de Dieu. En fin de compte, je pourrais dire, en résumant ces deux théophanies, que nous avons raison de confesser que Jésus est vrai homme et vrai Dieu. Que c'est un mystère, comme le disait tout à l'heure Pierre, devant le sacrifice du Christ. Que nos mots sont bien faibles, qu'il nous faut une révélation pour comprendre ça. Jésus, vrai homme et vrai Dieu. Mais si cela se fait au moment où Jésus envoie en mission ses 12 apôtres, c'est que nous pouvons être envoyés en mission. Nous pouvons être envoyés en mission que si nous avons reçu une révélation profonde de qui est Jésus. Autrement, de quoi témoignons-nous ? Ou de qui témoignons-nous ? De notre compréhension de Jésus ? Ce n'est pas suffisant. Elle peut être humaine. Nous devons être porteurs d'une révélation que nous saisissons par la foi. Que Jésus est vraiment ce qu'il dit être. Autrement dit, nous sommes envoyés à l'image des 12 apôtres comme des ambassadeurs du royaume qui vient, du royaume de celui qui est, qui était et qui vient, parole éternelle de Dieu, qui donne du sens à toute notre vie, qui accomplit la volonté de Dieu. Un autre terme qui est repris dans l'évangile de Jean et pas dans l'évangile de Luc, c'est que, vous savez comment commence l'évangile de Jean ? Au commencement était le Verbe. Au commencement, comme dans la Genèse. Et le Verbe, en grec, c'est le Logos. Alors, j'ai fait une petite étude. C'est quoi le Logos ? Le Logos, c'est un terme grec qui est assez intéressant. C'était cité par un philosophe qui s'appelle Héraclite lors du miracle grec. Ce qu'on appelle le miracle grec, c'est le début des philosophes. Et pour lui, le mot logos, ça veut dire le logos, c'est le principe divin qui donne du sens à l'univers. C'est pas mal. C'était pas des croyants. Hein. Et Jean reprend ça pour dire, voilà, Jésus est ce principe divin qui donne tout son sens à l'univers, à notre vie. Tout a été fait par lui, tout a été fait pour lui. C'est pas rien quand on se penche sur ces révélations qui sont données là. Alors maintenant, frères et sœurs, que j'ai un peu englobé par cette étude biblique un peu brève, pourquoi cette théophanie est placée là par Luc? Pourquoi elle arrive après le baptême et au moment de l'envoi en mission des 12? Parce qu'elle nous révèle que Jésus est vrai homme et vrai Dieu, qui est le Verbe incarné, qu'il est toujours, il a toujours été présent avec Dieu, parce qu'il est le Fils de Dieu et la parole faite chair, et que c'est lui qui nous envoie pour témoigner du royaume. Que signifie cette théophanie? Que révèle-t-elle concrètement pour nous? Parce qu'on pourrait s'arrêter là, on aurait bien discuté d'une belle connaissance, et c'est tout. Je connais des gens qui connaissent parfaitement la Bible, comme des théologiens ou des historiens, mais qui n'en vivent pas. La connaissance ne suffit pas. Il faut être conduit dans une révélation. Et pour moi, ce qui m'a attiré mon attention, hier, Anderson m'a téléphoné pour dire quel verset tu voulais mettre sur le petit papier. Et le verset qui a attiré mon attention, c'est le verset 35. Parce qu'au cœur de cette révélation, de ce que voient Pierre, Jacques et Jean, une parole se fait entendre. Verset 25, 35, « Et de la nuit est sortie une voix, bien sûr celle de Dieu, « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. » Dans la première révélation de Jésus par Luc à son baptême, il est simplement dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. » Mais là, il y a un ordre qui nous est donné. Écoutez-le. Écoutez-le. Pourquoi l'écouter? Parce qu'il est la parole de Dieu. Parce qu'il est celui qui, depuis toute éternité, est le Verbe de Dieu. Et si nous voulons être en relation avec Dieu, nous devons écouter Jésus. Alors, continuons, si vous le voulez bien. Qu'est-ce qu'écouter Dieu? J'ai fait aussi une petite recherche étymologique. Le mot « écouter », en hébreu, ça se dit comment? Shema. C'est quand même intéressant de voir que où se passe la révélation, là, où se passe la transfiguration? Sur une montagne. Dans quel contexte, la première fois, il a été dit à un peuple d'écouter? Shema Israël, Adonai Elokeinu, Adonai Echad. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, l'Éternel est un. C'est après la révélation sur le Sinaï. Après la révélation sur une montagne. Ce n'est pas un hasard. C'est comme si, discutant avec Moïse et Élie, Élie qui a aussi reçu une révélation de Dieu sur une montagne, vous vous souvenez laquelle? L'Horeb, où Jésus, où Dieu se révèle à lui, non pas dans la tempête, dans l'ouragan, dans la tornade, mais dans un bruissement doux et léger. Ces deux hommes ont reçu une révélation de Dieu sur la montagne. Et là, sur la montagne, Jésus parle avec eux et donne une révélation de qui il est aussi. Pour Pierre, Jacques et Jean, c'est pas quelconque. Ils sont juifs, ils connaissent la Bible et ils vivent quelque chose d'extrêmement important pour eux. Shema. Alors, Shema, ça vient, en fin de compte, c'est le verbe hébreu shama. Une belle chanson de Jeunesse en Mission, il y a 30 ans, chantée, qui donc dans le ciel est semblable à toi. Je ne sais pas si vous connaissez ce chant. Tu es Adonai, Shama, tu entends, tu répondras. Shama, c'est le verbe qui a trois sens en hébreu. J'ai trouvé ça, je l'ai cherché tout à l'heure, avant de ce matin, en travaillant le texte. Ça m'a, moi, personnellement ébloui. J'espère que vous allez être autant ébloui que moi. Shama en hébreu, ça a trois sens. Ça veut dire entendre, écouter, obéir. Impressionnant. Entendre, écouter, obéir. Tout un programme. Et ce verbe veut dire ces trois sens à la fois, sur lesquels on peut insister suivant le contexte, mais il contient ces trois sens à la fois. Et pas n'importe comment. Il veut dire entendre avec nos oreilles. C'est-à-dire, vous savez, le sens de l'ouïe. J'entends un son, Shama. Mais il veut aussi dire recevoir le pouvoir de comprendre ce qu'on entend. Ça, c'est autre chose. Parce qu'on peut entendre sans écouter. Est-ce que vous voyez la différence? Je peux entendre un son, je peux entendre une parole sans la comprendre. Et en fin de compte, ce que Dieu désire, c'est que nous entendions en comprenant. Autrement dit, Dieu nous donne de comprendre en écoutant. C'est lui qui ouvre nos oreilles pour en faire des oreilles de disciples. On ne peut pas entendre, comprendre, entendre, écouter, sans que Dieu nous le donne. Je suis frappé par le fait qu'il y a des tas de gens qui passent à côté de la parole qu'on proclame sans la comprendre. Ils entendent, mais ils n'écoutent pas. Seule une intervention de Dieu peut ouvrir leurs oreilles pour qu'ils entendent et comprennent. Parce que Shama, ça veut dire écouter avec l'oreille, mais recevoir la capacité de comprendre. Et ensuite, bien sûr, ça veut dire écouter. Mais ça veut dire écouter dans le sens de comprendre et de consentir à ce qu'on a compris. Ce que je peux comprendre et ne pas y consentir. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je repense souvent, pour ma propre vie, une parole qu'avait dit un pasteur, qui avait dit un jour, ce n'est pas tellement ce que je ne comprends pas qui me pose problème dans la Bible, c'est ce que je comprends trop bien et que je n'arrive pas à vivre. Autrement dit, Shema, écouter, c'est consentir. J'entends, Seigneur, je comprends, et je vais alors accorder ma vie à ce que j'ai entendu. Du coup, forcément, ça mène au troisième sens de Shema, obéir. Obéir. Autrement dit, quand Dieu dit « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi », le texte, hein, « Mon fils élu, mon fils oint », mon Christ, mon Messie, parce que vous savez que Christ, ça veut dire Messie, écoutez-le, vos oreilles s'ouvriront, vous allez comprendre, vous allez consentir et vous allez obéir et vous allez pouvoir vivre. Comme mes témoins, comme les témoins du royaume d'où vient Jésus et qu'il vous ouvre par le sacrifice qu'il va vivre à Jérusalem. Et c'est pour ça qu'il en discute avec Moïse et Élie, parce que les temps sont venus pour que le royaume s'ouvre à tous les hommes. Au travers du sacrifice du Messie. C'est extraordinaire, vous ne trouvez pas? Moi, ce matin, ça m'a bouleversé quand j'ai entendu ça. J'ai envie de dire que je pourrais arrêter ce que je vous partage là. Écoutez, entendre, consentir, obéir, parce que Dieu nous donne des oreilles pour entendre. C'est peut-être bon de commencer une lecture de la Bible en faisant cette humble prière. Seigneur, ouvre mes oreilles. Que je puisse vraiment écouter pour consentir et obéir. Et non pas écouter sans entendre et sans comprendre. Alors, maintenant la question est, et j'en arrive à mon dernier point, je termine là parce que je vois que le temps passe, comment écouter? Comment écouter? Et j'aimerais retravailler le texte 5 secondes. Il y a deux temps dans le texte. Il voit Moïse et Élie et Jésus. Et que dit Pierre? Oh, il faut construire une tente, il faut qu'il reste avec nous. Il est dit alors qu'il n'avait rien compris. Il ne savait pas ce qu'il disait. Mais à un autre moment, qu'est-ce qui arrive? Une nuée les couvre. Et quand la nuée les couvre, ils entendent la voix de Dieu et ils comprennent. Mon frère, ma sœur, si on veut comprendre, si on veut écouter pour comprendre, écouter pour consentir, écouter pour obéir, il faut entrer dans la nuée. Mais c'est quoi entrer dans la nuée? C'est quoi la nuée dans la Bible? C'est la Shekhinah, c'est la présence de Dieu. Il faut décider d'entrer dans la présence de Dieu. Il faut choisir d'entrer dans la présence de Dieu. Il faut se placer sous la nuée, dans la nuée. Et là, je voudrais terminer avec la troisième théophanie que nous révèle Luc. Est-ce que vous la connaissez ? Pour Luc, la troisième théophanie, c'est la fin de son évangile et c'est le début des actes. La troisième théophanie, elle est à venir. Jésus monte au ciel et que disent les anges ? Il reviendra comme il est monté. Et on pourrait rajouter avec les autres évangélistes ou avec ce que dit Paul, et alors tout œil le verra. Ce ne sera plus une théophanie particulière, ce sera la théophanie définitive, celle qui sera donnée à tout œil et on ne pourra plus que consentir. On ne pourra plus qu'obéir parce que tout œil le verra. Ce sera le retour définitif dans la gloire de Jésus. Autrement dit, Luc nous place maintenant entre deux théophanies. La première et la deuxième qui sont accomplies et la troisième qui est à venir. Et comment alors être témoin de celui qui vient entre ces deux temps de révélation, deux déjà accomplis, une qui n'est pas encore accomplie, mais qui s'accomplira sûrement. Et vous savez que l'évangile de Luc se termine par ça, recommence par ça et mène tout naturellement à acte 2, à la Pentecôte. Il voudrait employer un terme, je vais mettre d'énormes guillemets, parce que comprenez-moi bien, ce terme-là, on l'a biaisé dans un sens confessionnel. L'Église, elle est pentecôtiste par essence et par nature. Mais pas au sens confessionnel, vous voyez ce que je veux dire ? Je ne suis pas en train de prêcher qu'il faut devenir pentecôtiste au sens des assemblées de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire là ? Elle est pentecôtiste par essence et par nécessité. Nous pouvons être témoins de Jésus-Christ que si nous entrons volontairement dans la nuée, et sous la nuée. Et si nous laissons alors le royaume se manifester comme il le veut par nous. Comme il le veut par nous. Aussi bien dans des temps parfois extraordinaires, où on peut voir des guérisons et des miracles, que dans les temps humbles et quotidiens, où nous pouvons témoigner par notre vie toute simple de qui est Jésus. Mais il faut être dans la nuée et sous la nuée, car c'est Dieu qui décide des temps et des moments. Voulons-nous entrer dans la nuée ? Voulons-nous nous placer toujours sous la nuée de la présence de Dieu ? Et vous savez, cette belle image de la Shekhinah, pour les premiers chrétiens, c'est évident que la Shekhinah, la présence de Dieu, les flammes de feu qui tombent sur les disciples, les 120, c'est bien le Saint-Esprit, qui est présence de Dieu, qui est communion avec Dieu, esprit d'amour, esprit de communion. Nous devons être une communauté, l'Église, c'est la communauté de ceux qui sont dans la communion de Dieu sous la nuée du Saint-Esprit, qui est esprit d'amour et d'unité. Et c'est pour ça, bien sûr, que notre communion, si elle est déjà belle dans notre communauté, elle ne se limite pas à notre communauté. Notre communion est large de tous ceux et celles qui choisissent d'être sous la nuée, dans la nuée, en communion avec Dieu, pour témoigner de lui. Et c'est pour ça que l'unité visible du corps du Christ est un don de Dieu, que nous ne pouvons pas limiter par nos simples raisonnements, mais que nous pouvons recevoir que comme un don et comme une révélation. Je suis heureux, après 30 ans de vie chrétienne, d'avoir rencontré des frères et des sœurs ailleurs que dans mon église mère, ailleurs que dans l'église où je suis maintenant, qui sont dans la nuée et sous la nuée, et que je sais être en communion avec Dieu, comme vous et moi. Avoir cette vision de l'unité du corps du Christ, parce que nous sommes dans la nuée, sous la nuée. Alors, frères et sœurs, que ferons-nous ? Pour être temps de Dieu, aujourd'hui, pour être témoin du royaume qui vient, il nous faut rentrer dans la nuée, nous placer sous l'esprit de communion, sous l'Esprit Saint, être vraiment, et je remets mes guillemets, vous me comprenez bien, pentecôtiste. Parce que c'est là notre essence, c'est là notre appel jusqu'à ce que Jésus vienne. Il faut, je le crois, et je suis en chemin pour ça, je n'ai pas fini, je me parle à moi aussi. Il faut consentir à invoquer l'Esprit Saint pour que nous soyons vraiment dans la main de Dieu, tel qu'il le veut aujourd'hui. Nous serons alors les témoins du royaume qui vient, et nous pourrons accueillir dans la paix tout ce que l'Esprit Saint voudra manifester par nous, au milieu de nous et entre nous. Amen.
Amen.
Alors je vous invite à prier avec moi. Seigneur, je sais qu'avec mes frères et sœurs, nous pouvons aujourd'hui confesser que nous croyons que tu es le Fils du Dieu vivant, que tu es le nouvel Adam qui est venu pour nous libérer du péché, que tu es le Messie loin de Dieu, mort sur la croix, pour par son sang expiatoire, toi l'agneau sans tache, ôter le péché du monde et nous justifier devant Dieu. Mais je crois et nous croyons aussi que tu es celui qui vient bientôt, qui se révélera à tous dans une théophanie définitive, jusqu'à ce que ce temps vienne, et nous espérons et nous croyons que nous sommes de la génération qui verra ce temps parce que tu viens bientôt, Seigneur. Demandons la grâce, Seigneur, d'être ensemble dans la nuée, sous la nuée, vivant pleinement et librement de la présence du Saint-Esprit qui nous rend témoin de toi jusqu'à ce que tu viennes. Seigneur, fais cela dans nos vies personnelles, familiales et communautaires. Amen.